marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Comme à chaque étape, vous serez emporté par le flot puissant de l'histoire.
Le Marion Dufresne, le bateau des îles extrêmes.
Le bâtiment ira livrer une centrale électrique et assurera la relève des personnels à Crozet. Puis au Kerguelen, ce sera la difficile livraison de carburant dans une région où les dépressions sont quasi permanentes et les possibilités d'accostage inexistantes. Il faut par exemple, pour livrer le fioul, établir entre la Terre et le Marion Dufresne une canalisation flexible longue de 1000 mètres. Parfois les creux en mer sont tels qu'il est nécessaire d'interrompre les opérations. À Amsterdam, où se trouve l'unique station d'étude de la pollution atmosphérique, le navire des TAF apportera son concours à la construction d'un hôpital infirmerie.
En 1955, notre pays se constitua entre Réunion et Antarctique, à cheval entre le 40e et le 50e parallèle, un nouveau territoire d'outre-mer, les TAF, les terres australes et antarctiques françaises. Le CNES n'a cessé de dire son intérêt pour leur position géographique. Les spécialistes de la pêche et de la recherche des ressources naturelles rares ont longtemps insisté sur l'importance des zones exclusives maritimes qu'elles délimitent. Aujourd'hui, c'est leur éloignement de toute activité économique humaine qui intéresse les spécialistes de l'environnement. Quatre fois l'an, le Marion Dufresne assure la logistique des bases d'hivernant de Crozet, Kerguelen et Amsterdam-Saint-Paul. Des lieux soumis à la puissance des vents et inhospitaliers pour les hommes. Pas besoin de gouttières dans les bâtiments qu'ils tentent de maintenir en état. La pluie tombe horizontale. Sans le Marduf, il serait impossible de vivre ici. C'est grâce à lui qu'on peut partir aussi, ce qui est pareillement difficile. Le Marduf 2 date de 1994. Il y avait eu le Gallieni, qui ne pouvait remplir les mêmes fonctions, puis le Marduf 1, qui a fini exténué. Passé par une cure de jouvence en 2015, le Marduf 2 pourrait tenir encore 20 ans. Mais il faut déjà songer à son remplacement. Il était armé par la CGM, il vient de passer à Louis Dreyfus. Ses missions autres que logistiques vont être transférées de l'Institut polaire à l'Ifremer. Ses entorses aux traditions sont justifiées par la nécessité économique. La France est contrainte d'en appeler sans cesse aux vertus de l'ajustement, lesquelles peuvent entrer en contradiction avec les proclamations selon lesquelles notre pays bleu comme les océans entend rester une puissance aussi mondiale que maritime.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Emmanuel Lepage, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Grand dessinateur devant l'éternel. On se souvient peut-être chez Futuropolis de Austral, Antarctique. Je ne veux pas le détail des emboîtements, des volumes que vous mêlez dans ces publications. Dans l'un de ces emboîtements, on trouve les îles de la Désolation, qu'on peut aussi trouver dans sa singularité. Vous étiez dans votre maison des Côtes d'Armor, en train de dessiner tranquillement. Bon, vous aviez songé un jour à aller dans les TAF. Vous n'étiez même pas inscrit sur le Marion Dufresne. Il y a des listes d'attente de passagers. Puis, une place a été rendue vacante.
Oui, soudain, mon frère m'appelle un matin. Je partais en vacances avec les enfants. Et mon frère me dit, écoute, il y a une place qui vient de se dégager. Tu as une demi-heure pour te décider, sinon il la donne à quelqu'un d'autre. J'ai pris un quart d'heure pour prendre la décision pendant que mon frère occupait le secrétariat des TAF pour qu'il ne téléphone à personne d'autre.
Oui, mais vous étiez en train de regarder la mer qui est à 2 kilomètres de chez vous et vous étiez en train de vous dire que fils de marin, au fond, vous ne connaissiez la mer que depuis la côte.
Oui, c'est ça, la mer, je l'appréciais parce que j'ai vraiment besoin d'habiter en bord de mer, j'ai besoin de la savoir là, même si je ne la vois pas tous les jours. Mais effectivement, la mer, je ne l'avais jamais prise. Sinon pour des petites traversées, pour aller ici et là en ferry. Mais c'était quelque chose qui me fascinait depuis très longtemps. Et en ado, quand je dessinais, dans toutes mes histoires, il y avait des bateaux. Alors pas des voiliers, hein, c'était surtout des bateaux, des cargos, des transatlantiques. Et ça avait nourri tout mon imaginaire quand j'étais enfant.
Eh ben ça tombait bien, vous voilà sur un bateau hybride, cargo, porte-conteneur, paquebot pour passagers aussi d'une certaine manière. Il faut prendre l'avion d'abord, on arrive à La Réunion et puis on part ensuite de Port-Réunion dont le slogan selon les TAF est, je cite, « L'esprit de l'Europe au cœur de l'océan Indien. On entendra tout au long de cette émission des extraits d'une série de reportages excellents qu'ont fait deux grands de la radio, Olivier Berotte et Stéphane Delie-Georges, un peu avant votre passage, c'était en 2005.
Il y a un moment important, tout un entassement de caisses.
Donc là, on part dans une heure et demie à peu près. Donc
ouais, c'est ça, ouais. Donc, en gros, une heure et demie avant, hein, on clôture le chargement, on va dire. La destination en rouge, en vert et en bleu.
Ah, ça indique si c'est Crozet, si
voilà,
c'est
donc le rouge pour Kerguelen,
ouais.
Hein, le vert pour Crozet, ouais. Et le bleu Amsterdam.
D'accord.
Ça permet bon, d'identifier rapidement le matériel.
Barre à zéro.
Le voilier commandant à tout bord.
Ouais, calme.
Nous sommes maintenant sur le pont supérieur du Marion Dufresne. On vient de sortir bien sûr de la rade. Du haut de ce plus haut pont dégagé, le classique grand rond jaune avec un H au milieu, parce que nous attendons, et il va arriver par tribord, l'hélicoptère. L'hélicoptère qui va nous accompagner lui aussi pour ce mois de traversée.
On a entendu le bruit des caisses qu'on prépare. Ça me rappelle peut-être le bruit des tampons. Parce que pour occuper les passagers, on va leur faire tamponner des timbres.
Oui, alors une des grandes activités des terres australes et antarctiques françaises, c'est la philatélie. Les terres australes sont connues par ceux qui y sont allés et par les philatélistes. Les terres australes ont cette particularité de pouvoir émettre leurs propres timbres. Et les philatélistes du monde entier envoient leurs lettres en leur demandant de tamponner telle lettre à Port-au-Français ou Kerguelen, à la base Alfred Fort ou donc à Crozet. Et donc ces lettres prennent de la valeur parce qu'elles ont été soit postées sur ces bases, soit postées à bord. Et à bord donc du bateau, il y a des séances philatéliques où autour du capitaine et des principaux personnes qui sont à bord, on invite quelques passagers à tamponner tous ces timbres et à les signer. Pour certains.
On ira à Crozet et au Kerguelen avec vous. D'abord, il y a une urgence au moment où vous faites la rotation, c'est le terme officiel, c'est de ravitailler les hommes qui sont à Tromelin. Parce qu'il y a dans les TAF aussi les îles Éparses, dont la plupart sont dans le canal du Mozambique, et dont une, Tromelin, est beaucoup, beaucoup plus loin, à quelques 450 km de la côte.
Le détour vers l'île éparse de Tromelin est conséquent. 535 km dans un sens, puis dans l'autre. Quelques heures d'escale seulement sont prévues juste le temps de découvrir ce confetti d'un kilomètre carré où trois employés des TAF maintiennent la présence française. 1600 mètres de long, 700 mètres de large, Tromelin ressemble à un banc de sable qui émerge à peine de l'océan. Minuscule, culminant à moins de 7 mètres et à l'écart des routes de navigation, l'îlot n'est découvert qu'au XVIIIe siècle par un navire français de la Compagnie des Indes. Les eaux alentours sont infestées de requins et l'île est parfois submergée par les houles cycloniques. Les alizés sont si violents qu'aucun arbre ne pousse à part des veloutiers aux bras torturés.
Notre deuxième source avec vos îles de la désolation et le documentaire de France Culture, on a entendu une autre musicalité, un autre son, on est à la télé, France O, un documentaire de Cécile Clocheret et de François Picard. Dans votre album, il y a la couleur de la mer, vous avez eu du mal, non?
J'ai appris à la dessiner en fait, vous savez sur un bateau on a beaucoup de temps. Et j'ai passé beaucoup de temps à regarder par-dessus le bord, à essayer de comprendre comment elle fonctionnait. J'ai toujours été fasciné par les peintres de marine. J'avais beaucoup regardé, mais ouais, passer un mois sur un bateau vous permet d'essayer de comprendre comment ça marche et ensuite de trouver une réponse, je dirais, graphique à ce mouvement et à ces transparences.
Et puis il y a des pages, j'allais dire sépia, enfin je sais pas si c'est le mot exact, qui sont les pages historiques, on est à la marge de l'histoire. Il faudrait que vous nous racontiez quand même que cette île de Tromelin Vous le faites d'ailleurs, dans deux pages, a été le théâtre d'un drame.
Oui, en 1761.
Je vous aide, Emmanuel Lepage, mais ma science est récente.
Un navire négrier, en fait, venant de Madagascar, s'est échoué sur ce qui s'appelait l'île de Sable à l'époque. Et au bout d'un an, en fait, donc c'était un navire avec, je crois, 150 esclaves à bord. Et au bout d'un an, en fait, tous les marins sont partis à bord d'un bateau de fortune, en laissant les esclaves sur l'île, en leur promettant de venir les chercher bientôt. Et ils les ont abandonnés. Et ce n'est que 15 ans après que le chevalier de Tromelin, donc qui va donner son nom à l'île, retourne sur l'île de Sable et là découvre 6 femmes et un enfant. Donc ce qu'il a supposé qu'il y avait un homme peu de temps encore avant. Et voilà, c'est ce drame en fait dont on voit encore quelques traces d'ailleurs, parce qu'il y a des fouilles archéologiques qui ont été menées il y a quelques années et qui tentent de comprendre comment des hommes et des femmes ont pu vivre sur ce banc de sable hein, perdu au milieu de l'océan. Où, ma foi, à part manger des tortues et quelques poissons, je vois pas très très bien. Il n'y a pas d'arbres, par exemple. Hein.
Ce qui reste aujourd'hui, le petit personnel, 3 personnes, je crois,
oui,
de la
ça,
maintenance hein. De la station météo, dorénavant automatisée, sont ravitaillés par avion ou exceptionnellement par le Marion Dufresne. Alors, ayant rempli ce devoir au moment de votre rotation, ça y est, vous partez vers le sud, cap au sud, cap sur le froid. Et vous allez vous retrouver à un moment sur la ligne de convergence qui a dû inspirer votre crayon des eaux chaudes et des eaux froides.
Ce passage-là, ce moment effectivement où on passe des eaux chaudes de l'océan Indien aux eaux froides de l'océan subantarctique, crée parfois un phénomène étrange de brouillard. Et vous savez, on est hors de toute ligne maritime. Hein, le Marion Dufresne est donc le seul moyen d'accéder à ces îles-là. Et donc on navigue comme ça dans ce brouillard. Et je pensais à ces récits mythologiques, vous voyez, où lorsque la Terre était encore plate, on imaginait que avant d'arriver au bout du monde, il y avait les nuées. Et de l'autre côté, il y avait les animaux fantastiques. Et en quelques heures, la température de l'eau va chuter à quelques, je crois qu'on s'attend à 6 degrés, il me semble, donc de 25, 26 à 6 degrés. On va commencer à s'habiller très très chaudement, et la mer va changer de couleur. D'un bleu outre-mer, elle va passer à un gris de peine, un gris très très métallique. Et effectivement, une fois passées ces lignes de convergence, on est dans l'océan subantarctique et on est ailleurs.
Et on se dirige vers Crozet, qui a été découvert en 1772 par le malouin Marion Dufresne, d'où le nom du bateau sur lequel vous avez embarqué. Il avait détaché son lieutenant, Julien Crozet, pour prendre pied sur l'île, pour la donner en possession au roi de France. Alors, plus tard, il a eu des ambitions dans les mois qui ont suivi en Nouvelle-Zélande, mais son lieutenant et lui ont été mangés par les Maoris.
C'est à 7h du matin, un mardi, que nous arrivons devant l'île de la Possession, dans l'archipel de Crozet. Nous sommes à 2860 km de notre point de départ, l'île de la Réunion, après 3 jours et 3 nuits de mer. Cet archipel de Crozet, archipel subantarctique, se trouve à la limite de l'océan Indien et de l'océan Antarctique, entre les 40e rugissant et les 50e hurlant. Crozet forme un ensemble de 5 îles, toutes d'origine volcanique. Un premier groupe, à l'ouest, est constitué de l'île des Apôtres, de l'île Pingouin et de l'île aux Cochons. Toutes quasiment inaccessibles, et à une centaine de kilomètres se trouve le couple des îles orientales. Proches l'une de l'autre, l'île de l'Est et celle de la Possession. Monde accidenté et montagneux, dont les sommets sont presque toujours dans les nuages, monde coupé de rivières, balafré de vallées glaciaires. Fréquemment, les vents y atteignent 180 km/h. Pourtant, dans ces îles, 25 millions d'oiseaux marins viennent se reproduire.
Et là, avec votre carton à dessin, vous vous représentez dans les îles de la Désolation, vous marchez d'un pas peu assuré, au milieu des manchots. Des manchotières, il y a les manchots célibataires, puis il y a les manchotières, le bal des manchots. Et puis alors, le plus gênant, peut-être pour le dessinateur, c'est l'éléphant de mer.
Disons que l'éléphant de mer, j'avais vu quelques images, bien entendu. Mais je crois que je n'appréhendais absolument pas la taille de ces animaux. Et la première fois, c'est que j'ai entendu un bruit qui ressemblait fort à un groupe électrogène qu'on mettait en route, un moteur diesel en fait. Je me retourne et je vois des rochers. J'hésite, je regarde à nouveau, puis là je me rends compte que ce sont des éléphants de mer. Donc je m'approche, et ce qui m'intéresse évidemment, c'est d'appréhender le monde par le dessin. Je vais essayer de comprendre ces animaux. Alors, ils ne bougent pas tellement, mais je n'arrive pas à identifier ce que c'est. Je n'arrive pas à savoir où sont les yeux, où est la bouche. Il y a une sorte de trompe assez indéfinissable sur la gueule. Et j'essaie de dessiner ça, et je ne comprends pas ce que je fais. Et je vais passer d'ailleurs plusieurs heures, voire plusieurs jours d'ailleurs, dans ces endroits-là, les manchotières, parce que ils m'ont fasciné, les manchots, c'est extrêmement graphique à dessiner. Puis on entendait là tout de suite dans le son ce bruit assourdissant, vous voyez, des manchots. Et on est au milieu de tout ça, au milieu des éléphants de mer, des manchots, avec ces pétrels et ces squats qui tournent autour de nous, dans l'espoir de pouvoir attraper un petit manchot.
Oui, mais c'est bien gentil de débarquer Emmanuel Lepage, son frère, parce que François, le photographe, est avec vous, Caroline, la journaliste du Marin, etc., etc. Mais il faut ramener les hivernants, il faut opérer le ravitaillement, l'équipage n'est pas si nombreux, les circonstances météorologiques ces jours-là, sont extrêmement difficiles, et au fond, l'opération de ravitaillement va en partie échouer. On voit qu'on est sur une ligne tendue, très très difficile, et que les ajustements économiques, d'ailleurs, souvent, rendent encore plus difficiles les opérations prévues. Oui, On n'a pas besoin de prendre des passagers, au fond. Sauf pour des raisons économiques.
Vous savez, les passagers, ce qu'on va appeler les passagers touristes, donc ce sont la petite dizaine de personnes qui sont autorisées à bord du Marion Dufresne, sont des passeurs, en fait, d'une certaine manière. C'est eux qui vont, je pense, faire connaître, en fait, ces îles de par le monde, auprès de leurs amis, de leurs proches. Ce sont des gens très souvent passionnés, en fait, et qui trouvent que qui n'ont comme moyen d'aller sur ces îles-là que par le Marion Dufresne. Alors, évidemment, ça crée quelques tensions avec les scientifiques qui aimeraient que, évidemment, l'hélicoptère ne serve des opérations logistiques. Mais je crois personnellement que ces gens ont leur place tout à fait à bord du bateau.
Des passeurs. Quand vous avez publié votre BD, aussitôt après, 2010,
oui, un an après.
Votre passage, elle a beaucoup circulé, et on la retrouve ici entre les mains des documentaristes de Franceau, Picard et Clocheret, et ils font passer les pages.
Oui, c'est très émouvant.
Et les marins voudraient bien savoir comment ils ont été croqués. Sont-ils ressemblants?
Bah, j'aimerais beaucoup que tu me fasses vivre ma BD en faisant un petit paragraphe, une petite signature, ou, si tu es d'accord.
Oh, je vais bien faire une signature.
Voilà. Tu confirmes que c'est bien toi?
Ah oui, là c'est bien moi.
Ouais. Ah ouais. Voilà. Bah merci. Ah, t'es en plus en couverture.
On compte, hein, ouais. Mais c'était un mec vachement sympa, le dessinateur.
Uh-huh. T'es où?
Ça, c'est moi. Bon, on ne connaît pas, mais je suis avant aussi.
Génial. Attends, page de 36. Je vais te choper.
Attends, au tout début.
Non, c'est dans le milieu.
Tiens, ça se voit pas.
C'est toi? Ah, oh, attends. Attends, je regarde.
Bon, c'était il y a quelques années, hein.
Oui, Greg... cool.
Mais il y a même mon nom et ma signature.
Bah oui, et je vais te demander la même, mais en vrai. Nous avons retrouvé Grégoire Chavanel.
Ils ont de la chance parce que le dessinateur passeur, Emmanuel Lepage, c'est un disciple de Pierre Joubert. Alors nos auditeurs qui ont lu Signe de piste se souviennent peut-être de cette collection. C'était réaliste et même flatteur pour les personnages dessinés.
Oui, oui, en plus le Grégoire que l'on entend, donc qui est le second capitaine, avait toujours un peu aujourd'hui d'ailleurs, ressemblait beaucoup au personnage de Pierre Joubert en fait. Donc ça éveillait aussi en moi des souvenirs de lecture de Signe de piste, puisqu'effectivement c'est ce genre de capitaine qui semblait avoir 15 ans à la barre de son navire, me renvoyait aussi dans mes lectures d'enfant.
Mais attendez, je veux pas dire, mais c'est un peu comme dans les albums de Pierre Joubert, il n'y a pas beaucoup de noirs, il y a quand même des marins malgaches sur le Marion Dufresne.
Ah, mais l'essentiel des marins sont malgaches.
Où sont-ils dans vos dessins?
Oh, on en voit quand même quelques-uns. Mmh. Disons que je pense surtout Bah, j'ai dessiné en fait les gens qui venaient à moi, les gens que j'avais l'occasion de rencontrer effectivement à table et sur le pont. Les marins malgaches, malheureusement, ils sont au travail souvent. J'allais dire dans les cales, c'est un peu faux quand même, mais ils sont lors des opérations logistiques extrêmement présents. Mais là, c'est assez difficile de les dessiner.
Ils ont
autre chose à faire.
Il y a d'ailleurs une mécano dans la salle des machines qui vous dit pour me dessiner, il faudrait que tu saches dessiner l'odeur des otaries.
Oui, alors ça, je crois que j'ai pas réussi, hein. Décidément. J'aimerais être ce dessinateur-là, mais malheureusement, je n'ai pas réussi à dessiner l'odeur des otaries.
De Crozet, on va à Kerguelen, la destination numéro 1, la base australe la plus importante. Kerguelen, découverte par la fortune et le gros ventre, à deux reprises successives, par le chevalier de Kerguelen. Le chevalier de Kerguelen, ça mériterait un livre en soi.
L'histoire du chevalier de
Kerguelen. Isabelle en a fait un, Isabelle Théodicier en a fait un.
C'est un personnage étrange et fascinant. Donc il avait reçu comme mission du roi de France, Louis XV, de découvrir la Nouvelle-Amérique, l'Atlantide australe. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, on était persuadé qu'il existait un continent au-dessous du 40e parallèle sud, sans jamais l'avoir vu. On se basait sur des récits qui sont avérés souvent imaginaires, où on imaginait une vie des autochtones. Et Kerguelen est envoyé en 1772 découvrir ce continent qui allait assurer à la France, enfin au royaume de France, une richesse telle que ça avait été le cas pour l'Espagne ou l'Angleterre. Et au bout de quelques jours de navigation, il va rencontrer l'île de donc qui porte son nom, l'île de Kerguelen, mais sans pouvoir débarquer. Ils vont envoyer un bateau, le Gros Ventre, ils sont deux bateaux, hein. Ils vont envoyer le Gros Ventre qui lui va disparaître dans une tempête, et il va rentrer en France sans avoir pu découvrir ce qu'il y avait vraiment sur ces îles-là. Mais ce qu'il a vu, c'est essentiellement une terre désolée, balayée par les vents. Mais est-ce que, parce qu'il amenait une certaine façon la mauvaise nouvelle de ce qu'était, que ce continent n'existait pas, il n'arrivait pas à se résoudre de cette déception. Et petit à petit, il va se laisser convaincre, en fait, qu'il a découvert cette Nouvelle-Amérique.
Et il va faire un second voyage.
Il va faire un deuxième voyage.
Le roi hésitant sur la véracité de ses propos. Et dans ce deuxième voyage, il va enfin débarquer ?
Alors, il ne va pas débarquer.
Il boycotte sa découverte.
Il ne l'admet pas. Je crois que c'est un tel déchirement pour lui. Je pense que c'est quelqu'un qui se vivait vraiment comme un grand explorateur. Il était nourri aussi de ces grands explorateurs. Et lui ne découvre que cette terre de désolation, qu'il n'appréhende d'ailleurs pas comme une île. Hein. C'est Cook, deux ans après, qui va comprendre que c'est une île. Mais c'est une terre qui est tellement découpée que lorsqu'on s'approche de Kerguelen, on a plutôt l'impression d'un continent. Et Kerguelen, déçu en fait, amer, va rentrer et va être jugé, va être condamné et emprisonné.
Enfin, il faut dire qu'il avait amené une femme aussi.
Il avait amené
Louison,
une femme à bord,
mais c'est un autre personnage de légende qu'on n'a pas le temps d'évoquer. Ici, c'est une lecture toujours dans le documentaire de Beurotte et d'Olie-Georges. Du journal des frères Boissière qui vont arriver beaucoup plus tard en 1928. L'occupation a toujours été discontinue aux Kerguelen et qui vont être ruinés, eux aussi, par les Kerguelen.
Le 4 novembre, dans la soirée, l'Austral reprit sa route vers le sud et ce fut jusqu'aux Kerguelen, une traversée vraiment affreuse qui s'éternisa 8 jours durant. Elle nous valut des coups de tangage et de roulis absolument terrifiants. Nous rencontrâmes en effet 3 perturbations successives et la plus forte, le 7 novembre, fut un véritable ouragan. Le baromètre tomba à 730 mm et le vent, soufflant du nord-ouest, faisait déferler ce jour-là des vagues absolument gigantesques. Le lendemain, la première neige fit son apparition. Nous étions alors par 45 degrés sud et le thermomètre tomba brusquement à 3 degrés. Le 10 novembre, de nombreux paquets d'algues défilèrent le long du bord, arrachés aux côtes des Kerguelen et dérivant au large. Il restait encore plus de 100 milles pour être en vue de l'archipel. Nous espérions l'atteindre le lendemain soir, mais des grains de neige obscurcissaient à tel point l'horizon qu'il était impossible de discerner quoi que ce fût ce jour-là. Le 12 novembre à l'aube, ce fut un soulagement de voir se dresser enfin devant nous un piton isolé, le mont Campbell, un peu en retrait d'une côte très basse située à l'extrémité orientale du groupe. Un peu plus tard, nous vîmes se profiler très au loin et pendant peu d'instants, plusieurs lignes de crêtes très blanches. Ensuite, la neige se mit à tomber si dru pendant toute la matinée et une partie de l'après-midi que l'on ne voyait plus rien à 100 mètres à l'avant du navire. Une épaisse couche couvrait tout le pont. De plus 1,5 degré au lever du jour, la température tomba à 0 degré à midi. Une avancion qu'à une allure très réduite, devant passer non loin des redoutables roches du désespoir, responsables de plus d'un naufrage.
Et responsable du naufrage final de la fortune des frères Boissière, qui vont créer une usine pour traiter l'huile de baleine. Et comme toutes les tentatives d'occupation humaine durable, bah c'est segmenté, c'est interrompu, le pari est perdu. Enfin, c'est formidable graphiquement. Hein,
c'est une tragédie. Ce sont des gens qui, eux aussi, donc ce sont des terres qui ont fait beaucoup rêver, en fait, les terres australes. Les frères Boissière étaient persuadés d'une colonisation possible dans les îles Crozet, Kerguelen et Amsterdam. Et ils ont fait plusieurs tentatives. C'était l'introduction de moutons, par exemple, à Kerguelen. Ça a été une usine baleinière également. Ça a été pour eux un drame également à l'île Saint-Paul, où on a monté là une usine de langoustes. Il y a plein de langoustes en fait dans cet endroit-là, c'est assez fascinant. Et à la fin des années 20, on a laissé sur place dans cette usine. Donc l'île Saint-Paul, c'est une île assez étonnante, c'est en fait un cratère. C'est un cratère effondré d'un volcan.
C'est un autre district, un peu plus loin.
C'est un peu plus loin en effet. Et dans ce cratère, donc il y avait cette usine qui a été installée, et on a laissé des marins bretons de Concarneau pour entretenir l'usine pendant la période d'hiver. Et on les a oubliés. C'est-à-dire que l'entreprise Boissière a été en faillite. Le bateau qui devait venir les chercher a été affrété pour une autre destination. Et ces pauvres Concarnois sont restés pendant plusieurs mois sur cette île, et 4 sont morts dans l'aventure.
Vous êtes comme Kaufmann, vous intéressez beaucoup aux hommes dans l'histoire des Kerguelen. Maintenant, le projet, c'est de se débarrasser de toute intrusion humaine et de toutes les espèces animales et végétales que peuvent amener les hommes. Retour à une sorte de pureté originelle. J'aimerais que vous fassiez votre péroraison sur ce nouveau principe.
Alors, c'est vrai que dans cette bande dessinée, je me suis intéressé aux hommes, à cette communauté des terres australes qui m'a vraiment fasciné. Mais effectivement, c'est souvent en contradiction avec le désir que l'on a de préserver ces terres, qui sont la plus grande réserve naturelle de France. C'est les plus grandes réserves d'oiseaux au monde, marins au monde. Et on essaie petit à petit, en fait, de limiter l'impact de l'homme sur ces îles, tout en maintenant une présence humaine néanmoins. Donc, par exemple, c'est la suppression, il y a quelques années, des serres qui permettaient, au fait, aux hommes sur place d'avoir des légumes frais régulièrement et de ne fonctionner qu'avec des produits importés maintenant. Donc, ce qui était quand même un peu plus difficile.
Et pourtant, ça peut être la conclusion que vous avez trouvée notée par un photographe sur un livre d'or du Marion Dufresne. Le voyage au Kerguelen, ça améliore humainement, c'est l'impression qu'on a, vous lisant, vous regardant, Emmanuel Lepage, merci de nous avoir rejoints. Cette émission a été préparée par Franck Olivard. Vos livres sont publiés essentiellement chez Futuropolis. L'émission a été réalisée par Valérie Estaraï avec à la technique Loïc Frapsos.